tout est bouleversé.
Oui, là, tiens, ça c'était prévu comme ça.
Mais moi, j'ai
Antoine Marzandu, c'est moi.
Oui,
c'est l'autre prénom composé.
Je n'ai bu qu'un jus d'orange.
Ça vous fait un effet.
Bon, eh bien, nous allons reprendre. Alors, nous allons commencer par écouter Anne-Claude Ambroise rendue pour ceux qui étaient déjà là hier après-midi. Elle a déjà pris la parole pour présenter une recherche ANR. Et puis ensuite, donc, nous écouterons Jeanne-Lise Pépin. Voilà, alors je vous donne la parole.
Merci Madame la Présidente. Je voudrais commencer donc cette présentation, alors qui est, je le dis tout de suite, une présentation quasi programmatique. C'est-à-dire j'ai repéré un certain nombre de questions, d'axes, et les réponses, vous vous en doutez bien, seront apportées, enfin des réponses complémentaires et peut-être même des inflexions radicales, seront apportées par notre programme ANR. Je voudrais commencer par deux constats. Le premier, c'est que jusqu'au dernier quart du XXe siècle, jusque dans les années donc 1980, l'information médicale disponible sur la nature des violences sexuelles commises au sein des familles, sur les auteurs, sur les victimes, évidemment, ne sort guère, cette information ne sort guère du cabinet du médecin que pour gagner celui du juge. Il n'y a pas de diffusion de cette information dans l'espace public et donc il n'y a pas de visibilité publique de ces violences. Et deuxième constat, on a depuis assisté, me semble-t-il, à la diffusion d'une vulgate psychiatrique, psychologique, médicale, qui conditionne très largement aujourd'hui la lecture publique de l'inceste et donc qui conditionne son évaluation sociale. On voit bien d'ailleurs que nos apprêts... Alors évidemment, c'est évident pour les professionnels des sciences du psychisme, ça. Mais même chez les autres, notre vocabulaire, notre lecture de ces violences sexuelles et de l'inceste en particulier, est toujours placée sous l'égide d'un vocabulaire psy. Et j'en prends pour témoin la diffusion tout à fait frappante du terme incestuel, qui est un terme qui a été créé par Paul-Claude Racamier, qui était psychiatre et psychanalyste dans les années 80-90, et qui maintenant a diffusé, percole en quelque sorte, dans l'espace public, y compris donc chez des non-psy. Je dis psy, pas pour abréger, c'est parce que j'englobe du coup psychiatre, psychologue, psychanalyste. Ça va plus vite. Donc ce que je voudrais aujourd'hui, c'est essayer de saisir donc l'évolution dans le temps des interprétations de l'inceste par les médecins, parce qu'il existe bien un discours médical sur les violences sexuelles depuis la médecine aliéniste et même avant. Et puis d'autre part, je voudrais comprendre le paradoxe suivant qui est... On constate qu'il y a cette rétention d'informations et pourtant on constate également que l'expertise médicale dans ces affaires de violences sexuelles intrafamiliales est devenue, l'expertise médicale elle-même est devenue un phénomène public. On a vu les experts envahir, ne le prenons pas en mauvaise part, être présents, disons, sur les plateaux de télévision à partir de la deuxième moitié des années 80, et c'est évidemment lié à la médiatisation croissante de cette question. Donc, pour aller vite, si vous avez des questions éventuellement sur les sources utilisées, vous les poserez plus tard. Je vais présenter ce parcours en trois points. Et je dis parcours parce que ça correspond grosso modo à trois temps successifs. Le temps que j'appelle le temps du repérage médical, qui est le temps du 19e siècle. Le temps de la psychiatrisation et de la fabrique de la clinique incestueuse qui se situe au XXe siècle. Évidemment, c'est des périodes larges, parce que tout ça est quand même à vérifier et à préciser. Et puis, le troisième temps, qui est celui de la mise en visibilité médicale aussi, de la question, à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle. Alors donc, premier temps, le temps du repérage. Il n'était pas évident, car comme on le sait, tous ici, je suppose, l'inceste a été longtemps l'innommé du code, Et donc, forcément, innommé du code pénal, hein, et donc, forcément, enfin, assez logiquement, impensé dans le cadre des représentations de la famille. Et donc, on peut dire que tout au long du XIXe siècle, et apparemment, les résistances à l'égard des dessins, des expositions de dessins témoignent que ça n'est pas tout à fait fini, hein, l'inceste est soumis, la révélation de l'inceste et l'inceste sont soumis au tabou, dans les trois sens du mot tabou décrit par Michel Foucault, hein. Le tabou, c'est ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce qu'il ne faut pas dire, et c'est ce dont il faut ne pas parler, donc il faut empêcher la révélation. Là, je crois qu'on est complètement là-dedans. Donc, on préfère nier la réalité concrète du viol incestueux plutôt que d'en révéler, que d'en faciliter la révélation. Le président des assises de Caen en 1845 dit par exemple l'inceste, alors il n'utilise pas forcément le mot, je reviendrai là-dessus, hein, est un crime que l'on rougit de nommer. Voilà, on rougit de le nommer. Donc on rougit de l'affronter. Hein, c'est très difficile. Donc il me semble que cette réticence dissuade les parlementaires de songer à formuler un interdit législatif sur l'inceste, hein, et que donc il est plus ou moins intégré dans les différents articles qui concernent les attentats à la pudeur sur mineurs, mais pas nommément d'une part, et d'autre part comme circonstance aggravante le plus souvent, et c'est par crainte du scandale. Donc rendons à César ce qui est à César. Les premiers à être vraiment conscients du caractère massif des atteintes incestueuses, ce sont les magistrats, d'une part, et puis ce sont les médecins. Et donc c'est Tardieu qui... Ambroise Tardieu qui, en 1857, dans son étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, évoque l'inceste, hein, vous voyez, sans utiliser le mot sera ajouté dans des éditions ultérieures, les liens du sang, donc loin d'opposer une barrière à ces coupables entraînements, ne servent trop souvent qu'à les favoriser, des pères abusent de leurs filles, des frères de leurs sœurs. Cette étude médico-légale sur les attentats aux mœurs, elle est très souvent publiée, ce qui veut dire qu'elle s'est vendue, elle a été lue, elle a été diffusée, elle est connue. Bon. Et puis, en 62, dans cette édition-là, il met l'accent sur l'inceste maternel. Donc, on ne peut pas dire que la révélation de l'inceste maternel date du XXIe siècle. Hein. Ce qui, d'ailleurs, ça ouvre un débat sur lequel je ne reviendrai pas, parce qu'il me semble que c'est un peu périphérique, sur la consanguinité. Hein, donc il y a un débat sur les risques que l'inceste peut faire courir sur le plan biologique en matière de consanguinité, débat qui va s'étaler dans les années 1850-1860, puisqu'on voit dans l'inceste, évidemment, une cause possible de détérioration de l'espèce, le mot est utilisé par un médecin, et une cause de la loi de dégénérescence qui devient un souci très, très, très éminent dans toute la deuxième moitié du siècle. Mais les dernières décennies du XIXe siècle voient plutôt triompher la théorie sociale de la prohibition de l'inceste, hein, en abandonnant, pas complètement, mais en abandonnant relativement la motivation biologique, disons, de la prohibition de l'inceste. Les travaux théoriques des médecins sur l'inceste restent rares, ce qui amène à penser, invite en tout cas à penser, que l'incestueux n'est toujours pas conçu comme un objet médical. Tardieu y a fait une allusion, et puis ça reste un peu dans les limbes, et en tout cas ça n'est pas, il y a une difficulté à le considérer comme le produit d'une pathologie. J'en prends à témoin, je ne sais pas si je l'ai mis, oui, Krafft-Ebing, célèbre psychiatre autrichien, qui dans son ouvrage Psychopathia sexualis consacre moins de 2 pages sur 595 de cette édition, hein, à l'inceste, en errant en quelque sorte, hein, vous voyez, entre donc dans un grand nombre de cas, la majorité peut-être, hein, on ne peut pas montrer les causes pathologiques
de l'acte incestueux. Bon, bah, très bien, donc il renonce à y voir une catégorie pathologique. Et puis, quelques lignes plus loin, dans bien des cas pourtant, on peut, pour l'honneur de l'humanité, supposer un fondement psychopathique. Bon, et puis il ne tranche pas. Comme d'ailleurs, il ne tranche pas sur grand-chose, hein, Kraft-Ebing, c'est assez frappant. Donc, est-ce le signe d'un embarras, d'une indécision théorique ? Bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça témoigne que l'inceste n'est pas un objet ni un sujet central pour les aliénistes, qui, d'une manière générale, préfèrent, en matière d'ailleurs de sexe et de déviance sexuelle, s'occuper de l'inversion d'une part et des exhibitionnistes, hein, les outrages publics à la pudeur. Donc, je ne cite pas. Il y aurait d'autres médecins à évoquer, hein, sur lesquels je passe. Il y en a un quand même qui évoque la question des mères, qui reprend la question des mères incestueuses, et là, avec une tendance à considérer que les mères incestueuses, ben, en fait, sont des hystériques, ça va bien, c'est tout à fait dans l'air du temps. Hein. On est dans les années où Charcot travaille sur l'hystérie, donc voilà, la question est réglée. Alors tout ça explique en réalité, l'expertise des auteurs d'inceste quand ils sont devant le juge, hein, soit quasiment impossible et que du coup elle soit extrêmement rare. Mais ça tient aussi au fait que l'article 64 du Code pénal, hein, qui établit qu'il n'y a ni crime ni délit lorsque l'auteur était en état de démence au moment des faits, ne semble pas pouvoir s'appliquer à cette catégorie des violences sexuelles d'une manière générale, pas simplement de l'inceste. Les choses ne changent pas fondamentalement dans l'entre-deux-guerres. Elles commencent à changer. J'ai fait une étude assez systématique, mais sans doute pas totale, hein, sans doute pas complète. Elles commencent à changer dans les années 1950-1960, puisqu'on voit se multiplier les thèses de médecine, les articles qui sont consacrés au sujet violences sexuelles sur mineurs, inceste. Sans doute d'ailleurs sous l'influence des travaux d'un criminologue, Denis Sabot, qui est fondateur à l'Université de Montréal d'un enseignement de criminologie en 1958 et qui s'intéresse lui beaucoup à l'inceste et qui d'ailleurs est un des premiers à se demander tiens pourquoi est-ce que l'inceste ne figure pas dans le code pénal. Pourquoi est-ce que le mot ne figure pas? Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une réticence du législateur, justement, un effet du tabou? Donc des thèses, des articles, oui, mais toujours, qui ne sortent pas précisément de la sphère médicale. Peut-être un petit frémissement est-il sensible au début des années 60, puisque j'ai noté dans cette... je suis passée là-dessus. Ah ben non, alors je ne l'ai pas. Je reviens en arrière parce que je ne veux pas déflorer. J'ai noté dans cette thèse de 64, hein, une thèse de médecine faite à Lyon, ceci, la société s'intéressant de plus en plus aux enfants, le législateur soucieux de cette évolution a été amené à remanier les textes juridiques en fonction des exigences nouvelles de cette protection de l'enfance. Voilà. Mais alors, remaniement qui concerne précisément les signalements, hein, sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étaler, si j'ose dire. Et le même médecin fait remarquer que quand même les médecins de famille pourraient peut-être, puisqu'ils constatent un certain nombre de cas d'inceste qui ne sont jamais révélés à la justice, ils pourraient peut-être intervenir davantage. Ou en tout cas, inviter sa patiente à dénoncer les faits. Bon, alors là, pour le coup, il me semble que c'est une question qui a un peu évolué, mais pas tant que ça. En 1971, donc décret, hein, qui précise que le corps médical n'est plus tenu au secret lorsqu'il a connaissance, dans le cadre de l'exercice de sa profession, de ses vices de privation sur mineurs de moins de 15 ans. Donc, ça crée une espèce d'impératif, hein, qui concerne la dénonciation, ça n'empêche pas, ça ne lève pas les difficultés de cette dénonciation à cause du lien de confiance. Dénonciation qui concerne aussi d'ailleurs les travailleurs sociaux, les assistantes sociales, etc. Hein. Deuxième temps, la psychiatrisation et la fabrique de la clinique incestueuse. Elle est construite dans un premier temps cette clinique autour d'un questionnement portant sur la personnalité de l'auteur. Et évidemment, les réponses successives sont fonction du contexte. Alors, pour simplifier, je dirais que au XIXe siècle, et donc surtout à la fin du XIXe siècle, on évoque plutôt des facteurs moraux. Hein. On l'a vu dans l'hésitation de Krafft Ebing, les hommes qui font ça sont des êtres amoraux, immoraux. Hein. Ils provoquent d'ailleurs, ce faisant, une démoralisation des victimes, non pas au sens qu'elles n'ont plus le moral, mais elles n'ont plus de morale, ce qui est quand même très différent. Et c'est là, d'ailleurs, que réside le danger pour bien des observateurs de la fin du XIXe siècle. La question des souffrances psychiques, des conséquences à long terme, est posée parfois, mais rarement, et de toute façon pas abordée. Deuxième facteur, l'instinct génésique qui domine absolument les appréciations. Hein. L'instinct génésique, c'est une espèce de... quand il se manifeste de cette façon-là, hein, d'hypertrophie, du besoin génital. Et donc, ça explique l'inceste, le viol, l'adultère, les attentats à la pudeur. C'est pour cette raison, nous dit ce médecin, que dans la société civile, on tolère la prostitution, parce que c'est une façon, évidemment, de donner un exutoire à cet instinct génésique. Il y a aussi une explication, mais évidemment, elles sont toutes liées. Hein, j'en fais un catalogue comme ça, un peu mécanique, mais c'est plus compliqué que ça, et c'est surtout plus lié, qui consiste à s'interroger sur l'origine sociale de l'inceste. L'inceste, crime des pauvres, effet d'un milieu, hein, un milieu qui précisément favoriserait l'expression de l'instinct animal. Et on trouve dans ce rapport de 1935, hein, donc un rapport d'expertise pour le tribunal, hein, ce médecin qui nous parle d'un échantillon d'humanité très fruste, très près de la bête, ne résistant pas aux sollicitations élémentaires de l'instinct sexuel, ne reculant pas devant l'inceste. Cette situation, qui paraît d'ailleurs à l'époque actuelle et dans un milieu cultivé tout à fait anormal, se rencontre cependant assez souvent dans les couches inférieures de la société. Et donc là commence à se coaguler en quelque sorte un mythe qui est le mythe de l'inceste rural. Hein, le mythe, l'inceste, spécialité des régions rurales archaïques, et particulièrement dans l'ouest de la France, donc en Bretagne, en Vendée, qui seraient des terres de l'inceste. Alors évidemment, ceci est appuyé en quelque sorte. Non, ceci est appuyé par le fait que ce sont des terres où on boit, où on est censé boire, devrais-je dire, je devrais être prudente, et que l'alcoolisme est aussi perçu comme étant une cause très fondamentale de l'inceste, puisque précisément, ça lève les inhibitions. Bien. Tout ceci, cette configuration générale ne change pas ou très peu. Hein. L'idée, c'est que le père incestueux est un être primitif. Voilà. Et ça renvoie évidemment à des représentations qui remontent à Lombroso et même avant. Hein. Au XXe siècle, évidemment, le tabou de l'inceste se modifie un peu dans sa construction. Les représentations s'élargissent et le questionnement s'élargit à l'ensemble de la famille, d'une part, et puis sous l'influence de Freud, mais alors là c'est très difficile d'évaluer exactement à quel moment ça rentre en ligne de compte, on voit apparaître des notions qui empruntent davantage à la psychanalyse, et du coup on assiste quand même dans les rapports d'expertise et dans les ouvrages théoriques à un recul des appréciations morales de l'inceste, c'est-à-dire on a de plus en plus une appréciation froide, rationnelle si l'on veut, en tout cas clinique. Dans les années 80, toujours sous cette influence de Freud, mais on pourra reparler de Freud parce que, à mon avis, l'influence de Freud, elle n'a évidemment pas été univoque et elle a eu des tas d'effets dans des tas de directions en matière d'appréciation de l'inceste. En tout cas, dans les années 80, un certain nombre de psychanalystes surtout commencent à se préoccuper de distinguer l'inceste de la pédophilie, hein, en disant c'est pas du tout la même clinique, c'est pas du tout la même logique. Or, les médias confondent. Et les médias confondent de manière dommageable, évidemment, pour l'appréciation et pour la prise en compte de ces questions. Troisième temps, la mise en visibilité médiatique de ces discours médicaux. Alors, autour d'une meilleure appréhension statistique de cette criminalité d'abord, et puis autour aussi des questions qui commencent d'émerger dans les médias sur les conséquences, précisément l'impact de l'inceste sur les victimes. Un certain nombre de médecins font remarquer que si on a eu tellement de mal, y compris dans les tribunaux, à accepter la réalité de l'inceste pendant très longtemps, hein, quand ils s'autorisent un regard rétrospectif, ce qui n'est pas très fréquent, hein, c'est aussi parce qu'on avait affaire à des jurés, il ne faut pas l'oublier, qui étaient jusqu'en 1945 composés d'hommes. Hein, et que condamner un père incestueux, ça ne faisait pas forcément leur affaire. Et on trouve des rapports de présidents de cours d'assises qui sont sans équivoque là-dessus. Donc, deux choses, parce que je sens qu'il faut que je conclue. Donc, une clinique s'élabore autour du père incestueux, bien sûr, mais qui est très largement influencée par les représentations, quand même, du pédophile. Et on y reviendra, si vous voulez. Et une autre clinique s'élabore autour, précisément, des victimes. Et la notion de victime d'inceste émerge dans l'espace public dans les années 80 sur les plateaux de télévision. Il y a quelques émissions qui ont été, de ce point de vue-là, des temps forts, hein, et qui viennent témoigner précisément de la longue durée de l'impact de l'inceste, hein, puisque les premières victimes à avoir témoigné, elles étaient adultes et elles avaient été victimes 30 ans avant. Et donc, elle donne à lire, elle donne à voir en quelque sorte l'impact psychologique à long terme. On trouve dans les commentaires de ces émissions précisément matière à la diffusion de cette vulgate psy d'une manière générale, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Ce faisant, il me semble que on a affaire à deux problèmes. D'une part, un certain nombre de psys, et y compris lorsqu'ils sont experts auprès des tribunaux, commencent dans les années 90 à dire leur embarras face à la mission qui leur est confiée, parce qu'ils perçoivent bien qu'il y a là comme une mission de défense sociale qui n'est pas forcément dans leur mission d'origine, hein, et que notamment la question de l'obligation des soins à partir de 1998, hein, devient un sujet d'anxiété pour un certain nombre de ces praticiens. Et puis, on assiste à la naissance d'une figure nouvelle, enfin, elle n'est pas nouvelle, parce que je vous avais dit que les médecins de la fin du 19e siècle avaient identifié, qui est la mère incestueuse. Je renvoie à la thèse du médecin psychiatre Walter Albardier, une thèse de médecine qu'il a consacrée aux mères, aux femmes pédophiles, et qui a été ensuite, qui a largement inspiré un livre d'Anne Poiret, une journaliste, donc on voit bien le dialogue entre les deux, hein, qui publie en 2005 un livre qui s'appelle Le dernier tabou, femme pédophile, mère incestueuse, avec ce titre un peu sensationnel parce qu'il faut vendre. Donc, enfin, parce qu'il faut dire, mais il faut vendre aussi, hein. Donc, trois choses, hein. Vous voyez qu'on assiste à une espèce de transfiguration. Le pêcheur d'hier est devenu un cas clinique, un cas de pathologie, un malade, hein, en quelque sorte. Pêcheur d'hier ou criminel d'occasion à la fin du 19e siècle. Deuxième conclusion, on a quand même l'impression que cette histoire procède par bourgeonnement, et que le rythme de ce bourgeonnement s'accélère en quelque sorte. Et puis, troisième point sur lequel je voudrais insister, hein, c'est que toute clinique est une construction, c'est une construction mentale, c'est une construction sociale, c'est une construction culturelle, et qu'elle est sans doute valable au moment où elle émerge, dans certaines limites, et puis qu'elle sera amenée à être bouleversée. Ce qui justifie le rôle des historiens.
Merci beaucoup. Je pense qu'une question sur les sources reviendra tout à l'heure, inévitablement. Voilà. Alors maintenant, nous allons... Comme on en a pris l'habitude, on discute après les deux exposés. Voilà. Alors, nous allons écouter Jeanne-Lise Pépin.
Est-ce que c'est bon pour le micro ou faudrait que je le tienne vraiment à la main ? Ça va ? Alors, on cherche en vain un père équilibré, une mère aimante, partout le régime des préférences, la négligence, l'incurie, l'inceste, le crime. Ainsi s'exprime Marc Soriano au sujet des figures parentales dans les contes de Perrault. Lorsque l'on observe avec lui l'atmosphère familiale présentée dans ses courts récits, qu'il s'agisse de ceux de Perrault ou des Grimm d'ailleurs, contes qui retiendront ici notre attention, c'est en effet l'image d'une enfance malheureuse et maltraitée qui domine. La violence y est protéiforme et toutes les persécutions possibles semblent y avoir droit de cité. Se livrer à un bref inventaire non exhaustif permet de confirmer cet état des lieux. Songeons à l'abandon d'Ansel et Gretel ou de Poussé et ses frères au cœur de la forêt, au thème de l'inceste, matrice de l'intrigue de Peau d'âne, à l'asservissement et aux humiliations qui accablent Cendrillon, aux tentatives de meurtre perpétrées à l'encontre de Blanche-Neige par sa marâtre, ou à la mutilation dont est victime la fille d'un meunier dans le conte des Grimm, la jeune fille sans main, mutilation menée à terme par le père. Le conte apparaît alors comme le cadre fictionnel privilégié d'une manifestation de la violence exercée à l'encontre de l'enfance dans la sphère familiale. Comme le rappelle Marthe Robert, le véritable royaume du conte, en effet, n'est pas autre chose que l'univers familial bien clos et bien délimité où se joue le drame premier de l'homme. Qu'advient-il de cette violence consubstantielle au conte lorsque ces récits multiséculaires passent entre les mains de dramaturges et de metteurs en scène afin de les transmuer en spectacle dit « jeune public » ? C'est à cette question que tentera de répondre cette communication. Sans prétendre à l'exhaustivité, elle s'attachera à étudier le traitement narratif et scénique de la violence en famille dans 4 spectacles créés entre 2011 et 2015. Il s'agit du spectacle Cendrillon de la compagnie Louis Brouillard, compagnie dirigée par Joël Pomerat, de Peau d'âne par la compagnie Jean-Michel Rabeux et de 2 ciné-spectacles de la compagnie La Cordonnerie, Hansel et Gretel et Blanche-Neige ou La chute du mur de Berlin. L'enfance persécutée est un thème qui traverse la littérature et irrigue également le théâtre contemporain pour la jeunesse, comme en témoigne l'effet Petit Poussé, formule utilisée par Marie Bernanos afin de qualifier la grande présence d'enfants seuls ou abandonnés dans l'ensemble du théâtre jeunesse. La violence inaugurale à l'œuvre dans les contes qui retiennent ici notre attention entraîne le départ des protagonistes hors de la sphère familiale. Si cette séparation entre parents et enfants n'advient pas, les conséquences peuvent en être terribles et la violence devenir paroxystique. En témoigne l'intrigue du conte du Genévrier chez les Grimm, conte célèbre pour sa cruauté, qui correspond au type 720 de la classification des contes élaborée par Arne et Thompson, type dont l'intitulé qui sera sûrement plus évocateur est « Ma mère m'a tué, mon père m'a mangé ». À côté de ce dernier, des contes comme Cendrillon, Blanche-Neige ou Hansel et Gretel paraîtraient presque un peu mièvres. Certains touchent pourtant à des sujets tabous, tels l'inceste à l'œuvre dans le conte de Peau d'âne, un thème violent, tant par la réalité qu'il revêt que par son évocation, qui plus est auprès d'un public d'enfants. Alors je ne cite pas Michel Foucault, mais comme le rappelle Boris Cyrulnik, l'interdit de l'inceste ne porte pas que sur le faire, il porte aussi sur le dire. Pourtant, ou précisément pour cette raison peut-être, des 4 spectacles retenus ici, celui qui s'est attaché à reprendre l'intrigue de Peau d'âne est sans doute le plus léger et le moins troublant. L'histoire se donne à voir dans une tonalité résolument grotesque et parodique, qu'il s'agisse de la mort de la mère de Peau d'âne, sorte de caricature de ce qui serait la pire interprétation d'une mort en scène, ou de l'évocation du désir sexuel du père pour sa fille. Ce dernier, vêtu d'un smoking pailleté, s'avance vers elle dans une succession de pas évoquant le flamenco et, tel le loup de Tex Avery, finit par se cambrer en arrière et hurler à la mort. Les clins d'œil à la culture populaire irriguent l'ensemble du spectacle, telle la reprise de la réplique culte de la saga Star Wars « Je suis ton père », Le prince, quant à lui, fait son entrée en scène en traversant l'espace des gradins et en passant ainsi à proximité des jeunes spectateurs. Il porte un peignoir de boxeur au dos, au dos duquel est brodé le prince. La musique, culte elle aussi, qui l'accompagne, n'est autre que celle du film Rocky. L'ambiance est alors à la fête dans le théâtre et les enfants ont toutes les difficultés du monde à rester assis sur leur siège comme leur intime pourtant leur professeur. Avant même l'issue joyeuse du conte, les rires venant de la salle ponctuent l'ensemble du spectacle. Et cela même lorsque la jeune fille n'est pas encore parvenue à échapper au désir incestueux du père. Les ressorts comiques utilisés pouvant être d'ordre scatologique, comme la formule abracadaprout employée par la fée, ayant un franc succès auprès des enfants, un peu moins peut-être du côté des adultes. Le spectacle s'achève sur l'énonciation d'une moralité placée dans la bouche du père de Podane, dont la légèreté de ton contraste avec la gravité du thème de l'inceste. Moralité, il faut obéir à son papa, mais pas à tous les coups. Néanmoins, cette dernière se veut délivrance d'un message clair dans un spectacle qui, tout en mettant à distance la violence de l'inceste par l'entremise du rire, ose aborder ce thème avec des enfants. Dans les spectacles qui vont à présent retenir notre attention, la matière narrative des contes sources a été profondément retravaillée. Et si la violence en famille peut faire l'objet de procédés de mise à distance également, ou de déplacement, elle demeure une donnée essentielle du spectacle. Alors, avant de poursuivre, je vais vous présenter brièvement ce qu'est la forme du ciné-spectacle pour qu'on puisse s'entendre. C'est une forme scénique hybride qui a été créée par la compagnie La Cordonnerie. Il y a un film projeté en fond de scène qui a été créé préalablement pour le spectacle et à l'avant-scène, les deux interprètes que vous voyez notamment ici, donc face publique, grâce à des rétroviseurs montés sur pied, doublent et greffent leur voix sur le film. Il y a également deux interprètes musicaux qu'on ne voit pas ici, à Jardin et à Cour, qui interprètent la musique live du spectacle. Alors, dans le ciné-spectacle Hansel et Gretel, tous les attendus du conte sont réunis. La misère inaugurale, le double abandon au cœur de la forêt, les petits cailloux puis les miettes semés pour tenter de retrouver son chemin, l'appétissante maison en bonbons et l'abominable sorcière qui finira par périr dans la chaleur du four. En dépit de cette rémanence des motifs centraux du conte, rien ne se passe pourtant tout à fait comme on pouvait l'imaginer. Transposé en pleine crise financière des années 70, comme le texte de présentation du spectacle nous l'indique, et comme l'esthétique rétro à l'œuvre dans le film le laisse penser, les temps sont durs pour les protagonistes du conte. La violence y est sociale avant que d'être familiale. Le spectacle s'ouvre d'ailleurs sur un entretien au sein de la NPE. On y découvre Jacob face à une conseillère peu amène, à la voix froide, et qu'on ne verra que de dos. Lorsqu'elle s'enquiert de la situation familiale de Jacob, le spectateur apprend qu'il vit toujours avec ses parents. Ce n'est toutefois pas lui qui vit chez eux, mais eux qui vivent chez lui. Avec une certaine fierté dans la voix, il déclare « Mes parents, c'est Hansel et Gretel ». Opérant un revirement dramaturgique puissant, Samuel Hercule et Mathilde Veillorgance, que vous voyez à l'image, tous deux metteurs en scène, dramaturges et interprètes de la compagnie, ont décidé de faire d'Hansel et Gretel non pas un duo d'enfants issus d'une même fratrie, mais un couple de personnes âgées. Anciens artistes de cirque, dans la célèbre émission La Piste aux étoiles, détrônés par plus jeunes qu'eux, ils vivent avec et aux dépens de leur fils Jacob, dans une modeste caravane située sur un terrain vague. L'irruption de Barbara dans sa vie, femme séduisante et légèrement inquiétante, conduira Jacob à abandonner ses parents à deux reprises dans la forêt. Si la violence de l'abandon est toujours présente et centrale dans le conte, elle est comme mise à distance de l'enfance. Comme nous avons pu le voir, ce ne sont plus des enfants qui sont abandonnés, mais des personnes âgées, renversement nous permettant de nous questionner sur la place que nous accordons à nos ascendants dans nos vies à la fois collectives et intimes. Par ailleurs, la violence ne s'auto-génère plus dans la sphère familiale, mais est imputable à une figure extérieure, l'inquiétante Barbara, qui n'est autre que la sorcière de l'histoire. Chez les Grimm, c'était la belle-mère qui tannait le père quant à la nécessité d'abandonner les enfants dans la forêt. Tout se passe comme si, au fil du temps, dans un effet centrifuge, les personnages de vrais méchants, c'est-à-dire des personnages dont la méchanceté sans équivoque reflète une vision manichéenne du monde, avaient tendance à s'éloigner de la cellule familiale première. Comme le rappelle Natacha Rimasson-Fertin, l'étude génétique des contes des Grimm a permis la mise au jour des modifications opérées entre les différentes publications du recueil. L'une d'entre elles est la transformation de la mère en figure de marâtre, et cela dans deux contes, Hansel et Gretel et Blanche-Neige. Dans le ciné-spectacle de la cordonnerie, le refus de faire de la famille la source de la violence s'inscrit dans une volonté de valoriser la force des liens familiaux. En effet, à la fin du spectacle, après avoir tué la sorcière, Hansel et Gretel, ce couple attachant, découvrent que leur fils Jacob s'est approprié l'héritage artistique familial en devenant magicien à son tour. On retrouve cette valorisation et cette complexification des liens familiaux dans Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Le contexte historique est cette fois-ci celui de la fin de la guerre froide, comme l'induit le titre du spectacle. Ici, Blanche-Neige est plus sobrement prénommée Blanche. C'est une adolescente au look gothique. Elle vit seule avec sa belle-mère Elisabeth dans une cité de banlieue baptisée Le Royaume. Le prologue nous apprend que la mère de Blanche est décédée avant ses 3 ans. Lorsque Blanche avait 6 ans, Udo, son père, est parti exercer le métier de trapéziste dans l'un des plus grands cirques du RSS. Il devait revenir, finalement, il ne reviendra pas. L'ambiance entre les deux femmes est tendue dans l'appartement. Blanche ne supporte plus cette cohabitation, elle finira par fuguer à 2 reprises pour vivre recluse au fond des bois dans une simple tente de camping. Je vous propose de regarder ensemble la scène qui préside à sa première fugue. Alors, qui normalement a été préparée. Ce n'est pas Jacques Demy que je vous montre. Ouais. Si.
Miroir. Oh mon miroir. Qui est la plus belle du royaume?
Madame, vous êtes ici la plus belle. Mais la jeune Blanche qui écoute juste derrière cette porte l'est mille fois.
Cette scène, qui exploite quelques codes du cinéma d'épouvante et qui a pu effrayer certains jeunes spectateurs, repose en fait sur un quiproquo. Dans cette réécriture du conte, le trouble fait est à nouveau extérieur à la sphère familiale, tout en étant placé au cœur du quotidien matériel des deux femmes. Il s'agit du miroir de la salle de bain. Un objet prosaïque, associé au thème du narcissisme, certes, mais aussi à une thématique plus féministe, celle du diktat des apparences et de l'éternelle jeunesse imposée aux femmes. Signalons au passage qu'Elisabeth exerce le métier d'hôtesse de l'air. Dotée d'une inquiétante autonomie, le miroir n'a de cesse d'interpeller la jeune Blanche et de la monter contre sa belle-mère, qui, selon lui, a des désirs de meurtre à son encontre. Dans la scène que nous venons de voir, la conjonction d'une coupure de courant, d'un violent orage et de la paire de ciseaux tenus par Elisabeth devant elle a de quoi faire frémir l'adolescente et l'enfant spectateur. Elle trouble la perception que nous avons du personnage d'Elisabeth et semble remettre l'intrigue du ciné-spectacle dans les rails du conte source, pour mieux s'en écarter finalement. Nous verrons par la suite Elisabeth, rongée par l'angoisse, signaler la fugue de Blanche auprès d'un officier de police, chasseur du dimanche à 16h. Les deux femmes finiront par se retrouver et se réconcilier au cœur de la forêt dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989. Ici, la violence en famille est avant tout celle des échanges verbaux houleux entre une belle-mère et sa belle-fille qui ne se comprennent plus. Le thème de la jalousie et de la rivalité féminine a été rendu présent par l'entremise du miroir pour finalement mieux s'absenter de la scène théâtrale. Le spectacle Cendrillon de la compagnie Louis Brouillard use lui aussi de la force du quiproquo pour bousculer la matière narrative du conte. Dans ce spectacle, la violence première exercée à l'encontre de l'enfance est celle du drame que constitue la perte irréversible d'un parent emporté par la maladie. Si Perrault évacue totalement l'épisode de la mort de la mère de Cendrillon, c'est sur l'évocation de cette dernière que s'ouvre le conte dans la version des Grimm. Et Paumera décide d'exploiter pleinement ce motif du conte et concrétise au plateau la venue de la jeune Sandra, donc Sandra Cendrillon, vous avez compris, au chevet de sa mère. Dans le conte des Grimm, la mère demande à sa fille de rester pieuse et bonne. Chez Paumera, le spectateur n'entend pas les paroles de la mère, mais la très jeune fille répète ce qu'elle pense avoir entendu. « Ma petite fille, quand je ne serai plus là, il ne faudra jamais que tu cesses de penser à moi. Tant que tu penseras à moi tout le temps, sans jamais m'oublier, je resterai en vie quelque part. » À la douleur de la perte d'un parent vient se greffer cette contrainte obsessionnelle que le quiproquo inaugural fait peser sur les épaules de la jeune Sandra. L'intrigue s'en voit considérablement complexifiée. Face à l'épreuve de ce deuil rendu impossible, la jeune fille ne cesse de se dévaloriser et se livre à une forme d'autoflagellation cruelle, mais non dénuée d'effet comique. Comme lorsque, face à la fée, elle s'exclame « Si ça se trouve, je suis une vraie salope et j'ai oublié de penser à ma mère pendant je sais pas combien de temps, et peut-être qu'à cause de ça, ma mère, elle est tombée dans la vraie mort maintenant. Voilà l'histoire, vous êtes contente ?» Par ailleurs, si la belle-mère ne peut en aucun cas être considérée comme un personnage bienveillant, ce n'est pas elle qui est véritablement l'instigatrice de toutes les tâches ménagères avilissantes qui incombent à Sandra, mais bien Sandra elle-même. Elle affirme par exemple « Je crois que je vais aimer ça, retirer les cheveux des lavabos, c'est dégueulasse, ça va me faire du bien. » Comme dans la version de Perrault ou des Grimm, les deux demi-sœurs de Sandra peuvent se révéler extrêmement cruelles à son égard. Elles tentent de lui faire croire qu'elles ont quelqu'un au téléphone pour elle, il s'agit de sa mère morte, et c'est pas sympa de pas lui répondre car elle appelle de vachement loin et c'est cher la communication. Puis elle décide de la baptiser Cendrier, car elle trouve que Sandra sent la cigarette. La liste de ses humiliations pourrait être encore complétée. Pourtant, ce duo, sorte de monstre bicéphale, n'est pas le plus dérangeant. Paumera se refusera d'ailleurs à les condamner à la fin du conte, comme c'était le cas dans la version des Grimm. Victimes, elles aussi, à leur manière, elles subissent la violence verbale et la toxicité de leur mère, une femme persuadée de n'être pas reconnue à sa juste valeur, confondant le rêve et la réalité, n'hésitant pas à écraser ses filles pour qu'elles admettent être moins avantagées qu'elles sur le plan physique. Le père de Sandra incarne lui aussi une figure de parent défaillant. Il ne parvient pas à protéger sa fille, la laisse dormir dans une cave sans fenêtre, est incapable de s'opposer fermement à sa nouvelle compagne lorsqu'elle exige que la robe de la mère décédée soit brûlée. Par ailleurs, Sandra sent bel et bien la cigarette car le père vient sans cesse fumer dans sa chambre, n'osant pas le faire devant sa femme. Paumera veille cependant à ne pas sombrer dans la caricature et renonce à tout manichéisme. Ce père est défaillant, mais non pas méchant. Lui aussi a perdu une personne qu'il aimait et tente comme il peut de faire face. Il n'est d'ailleurs pas le seul à tenter de composer avec le décès de sa femme et la douleur de son enfant. Paumera dédouble en effet le récit en créant une autre figure d'orphelin, un très jeune prince que Sandra rencontre en se rendant au bal. Ils discutent brièvement, mais lui doit partir, car il a un rendez-vous téléphonique avec sa mère, rendez-vous qui, à chaque fois, pour une raison ou pour une autre, est annulé. Cela fait 10 ans qu'elle est coincée à cause des grèves de transport. Rapport avec notre journée d'hier. Elle n'arrive pas à rentrer, c'est la galère, et c'est long, comme il l'explique à Sandra, qui lui répond « vachement, surtout pour des grèves ». Refusant d'admettre que cette histoire ne tient pas, enfermée dans ce mensonge en un sens confortable que son père a créé, le jeune prince ouvrira les yeux seulement grâce à l'intervention honnête et brutale de la jeune fille, la vérité sortant ici bel et bien de la bouche d'une enfant. On observe un même phénomène d'entraide entre adolescents dans Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin. Lorsqu'ayant rejoint Blanche au cœur de la forêt, son ami Abdel l'écoute sur son sentiment de ne pas être aimé par sa belle-mère et cherche à le relativiser. Cela ne signifie pas que les personnages d'enfants ou d'adolescents dans ces réécritures de contes ne peuvent plus espérer aucune aide venant du côté des adultes. Seulement, ces derniers deviennent des êtres complexes, vulnérables et faillibles, et l'on observe une sorte de dilution des figures d'adjuvants si chères aux contes. Ainsi, la fée chez Paumera est nulle en magie, mais sincèrement bienveillante à l'égard de Sandra, et sa parole se veut et se fait incitation à retrouver le goût de vivre. Ce parcours à travers ces 4 transpositions de contes pour le jeune public nous a permis de constater qu'il n'existe pas une seule et unique manière de s'emparer du conte et de sa violence intrinsèque. De sa mise à distance par le grotesque chez Rabeu, aux multiples remaniements dramaturgiques opérés par la cordonnerie ou la compagnie Louis Brouillard, la violence en famille ne s'absente jamais tout à fait de ces nouveaux récits. Les spectacles Hansel et Gretel, Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin et Cendrillon lui donnent des reflets nouveaux dans lesquels chatoient les questionnements de notre époque. En décidant d'instiller une nouvelle complexité aux personnages d'enfants et d'adultes dans les contes et en éloignant le manichéisme de la sphère familiale, la Cordonnerie et la compagnie Louis Brouillard rompent avec l'absence de profondeur, entendons absence de profondeur psychologique, théorisée par Max Lutti, qui serait le propre du conte. Les metteurs en scène de ces spectacles donnent vie à des personnages d'adultes vulnérables et en proie au doute. La violence au sein de la famille devient un phénomène complexe qui, comme dans les contes sources, requiert du courage pour en sortir. Dans Peau d'âne de Jean-Michel Rabeu, la complexité des processus et des manifestations de la violence est écartée. Le spectacle se veut moment de joie et de fête pour les enfants. En ce sens et par cette voie, il rejoint sur un point la Cordonnerie et la compagnie Louis Brouillard, celui du refus du pessimisme. Cependant, en décidant de clore le récit sur la célébration du mariage entre Peau d'âne et le prince, Rabeu installe de nouveau le conte dans une circularité du récit. Il s'ouvrait sur l'affirmation d'un couple parental et se referme sur l'avènement d'une nouvelle cellule familiale qui, peut-être, reproduira le même schéma incestueux sur d'autres générations. En choisissant au contraire d'évacuer la thématique du mariage et de la nouvelle constitution d'une famille, les compagnies Louis Brouillard et la Cordonnerie soulignent l'individualité et l'autodétermination caractérisant les personnages d'enfants ou de jeunes adolescents dans leur réécriture de contes. Ce qui s'ouvre devant de ces derniers est bien plus vaste que le huis clos familial initial. Il s'agit de l'inconnu d'une vie qui reste encore à écrire et qui, à l'image des situations difficiles qu'ils ont eu à affronter au cours du segment de leur histoire qui nous a été présenté, ne sera pas dénué de malheur ni de toute violence. Dans le sillage de Walter Benjamin, le comte garde alors dans son passage à la scène son statut de premier conseiller de l'enfance parce qu'il fut jadis le premier conseiller de l'humanité. Je vous remercie.
Alors, merci beaucoup à nos deux intervenantes. Vos exposés étaient très, 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 très riches. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'on arrive toujours à trouver comment ils se répondent d'une certaine façon. Hein. Toutes les deux, vous avez, me semble-t-il, mis en évidence, c'est un de vos points, hein, je ne vais pas résumer vos interventions à cela, mais c'est la question, comment est-ce que je pourrais le formuler, du côté de la visibilité. Hein, qu'est-ce qu'on veut montrer, qu'est-ce qu'on peut montrer, et comment est-ce qu'on va le montrer, hein, j'ai envie de... Voilà. Mais je ne vais pas monopoliser la parole. J'aurai d'autres choses à dire si jamais vous séchez. Mais voilà, je donne la parole à la salle. Pour combien de temps on a bien un quart d'heure. 20 minutes même. Alors, allez-y. Il y a un micro-baladeur, s'il vous plaît. Il y a Laure Razon là, qui veut prendre la parole. Ensuite, il y en aura d'autres.
Laure et puis après. Merci. Merci, hein, oui, pour vos deux exposés. Alors, peut-être plus sur la question de l'inceste, juste deux points de ce que moi j'ai pu repérer. Alors, sur la question de la psychanalyse, en trois mots, l'histoire de la psychanalyse. Alors, Freud, effectivement, en 1895, reconnaît la question de l'inceste comme étant à l'origine de l'hystérie pour abandonner un an après à peine cette question-là. C'est-à-dire basculer radicalement du côté du fantasme. Et Bergeret dira, le tabou de la psychanalyse pendant un siècle, ça a été cette question-là. C'est-à-dire que même quand Ferenczi, sur la base de témoignages de pères incestueux, etc., a voulu montrer qu'il y a une réalité de l'inceste, bon, c'est lui qui a été viré, hein, et Anna Freud a ensuite renforçant l'idée que ce serait la perte de la psychanalyse que de reconnaître la réalité de l'inceste. Donc ça a fait effectivement des gars pendant un siècle, hein, et c'est effectivement Racamier qui, en 80, je sais plus, 4 ou 6, quand il a sorti son livre, est venu articuler la question de la réalité et du fantasme. Donc vraiment un siècle après. Et je me souviens, moi, quand j'étais jeune et que je commençais à faire des conférences, j'entendais, dans le début des années 90, effectivement des psys qui ne reconnaissaient pas hein, la réalité de l'inceste. Donc, ce n'est pas si loin que ça.
Sauf si vous passez à autre chose ou
allez-y.
Renforcer ça d'une question, parce que effectivement j'ai lu ces histoires, puis beaucoup de victimes le disent la surdité, l'impossibilité des psys à entendre ce qu'elles disaient, et les renvoyant toujours du côté du fantasme. Mais j'ai lu au début des années 2000 un article d'un psychanalyste qui est Jean-Jacques Gorog, qui disait au fond le renoncement de Freud à la neurotica et le passage à l'Œdipe, pour le dire brièvement, a été mal compris. Et en réalité, moi je ne rentre pas dans ces querelles-là, alors surtout pas, mais je prends et puis j'expose l'état du débat, mais disant Freud n'a jamais dit que ses patients totalement hystériques n'avaient pas été victimes de leur père ou l'avaient été, c'était pas son problème. Son problème, c'était celui du fantasme et de des conditions de possibilité dans lesquelles ce fantasme avait émergé, peut-être des gestes mal compris, peut-être des gestes réellement intrusifs, peut-être, Et que c'est là-dessus qu'il a voulu travailler en disant, en invitant en quelque sorte les psychanalystes à ne pas forcément se poser la question de la réalité des gestes, parce que c'est normalement pas leur terrain, mais de l'existence psychique et de l'existence fantasmatique. Voilà, moi, c'est ce que j'ai compris.
Oui, je vois bien cet article. Mais Freud n'a quand même jamais noué la question du fantasme et de la réalité. Il y a d'autres auteurs qui l'ont démontré. Hein, mais en tout cas, l'exemple de Ferenczi qu'il a viré montrait bien que pour Freud, il y avait quelque chose de compliqué, puisque Ferenczi, lui, justement, venait nouer déjà, en 1936, cette question-là. Donc, effectivement, on ne va pas rentrer dans ces conflits-là. Mais simplement, les dégâts, effectivement, que ça a pu faire, tout à fait. Alors, deuxième point, et puis c'était par rapport à votre historique. Alors moi, ce que j'ai repéré, je ne suis pas historienne, mais qu'effectivement, à partir des années 60, ce qui a finalement changé la donne, c'est à la fois le changement au niveau de la famille. C'est à la fois la question de progressivement la perte du pater familias, etc. Ensuite, la question de la femme qui prend une nouvelle place, à la fois dans la famille et dans la société, et l'enfant aussi qui prend une nouvelle place dans tout cela. On n'est plus dans, comme le disait Ariès, sous l'Ancien Régime, où l'enfant était un adulte miniature. Donc tout ça, à mon avis, fait que la question a bougé. Et pourquoi je reviens à la question des femmes? C'est parce que finalement, progressivement, et puis on le voit bien au niveau des tribunaux, tout ce que vous avez dit, c'est mis sous le sceau de la violence. Alors que, moi j'avais lu des dossiers, c'était pas sous le sceau de la violence, les questions d'inceste. Mais à partir de ces années-là, ce qui est dénoncé, c'est que c'est une violence, effectivement. Et ce qui me questionne, c'est peut-être aussi une question là pour l'historienne, c'est que finalement, ce qui a fait évoluer des mentalités, ce qui a fait évoluer la loi, ce sont les victimes. Alors je me dis, pourquoi est-ce que finalement, c'est du côté des victimes que les choses peuvent avancer par ce fait-là, et pourquoi c'est pas, je dirais, sur un autre registre plus fondateur à la Lévi-Strauss, pourquoi c'est pas ça qui fait bouger les mentalités et les législations, etc. Mais bon, c'est une question.
Je vous remercie de me la poser, mais j'ai la même, je vous la renvoie. On constate que c'est comme ça que... Alors, on pourrait dire qu'une évolution culturelle générale qui fait que d'une façon générale, dans le processus judiciaire et dans la sphère sociale, la figure de la victime, et pas simplement pour la question des violences sexuelles, s'est imposée à partir... Alors là-dessus, il y a débat. À partir de quand? Pour un certain nombre de magistrats, je pense à Denis Salas ou Antoine Garapon, l'émergence de la figure de la victime, c'est une conséquence immédiate de la Shoah. C'est-à-dire, la figure victimaire se construit dans la pré-Seconde Guerre mondiale. Moi, je l'ai constaté pour les questions qui m'intéressent dans les années 1980. Et du coup, évidemment, j'ai regardé de très près ce que le mouvement féministe, par exemple, des années 60 et 70, avait réussi à construire sur la question, notamment lorsque les féministes ont milité pour la requalification du viol, aboutissant à la loi de décembre 80. Et je me suis rendu compte que dans les années 70, les féministes sont quasi muettes sur la question des violences sexuelles infligées aux enfants. Donc je les ai interrogées, elles m'ont dit pas du tout, on a beaucoup parlé, où sont les sources ? Et en fait, j'ai très bien compris qu'il y avait comme une impossibilité, je dirais, philosophique, principielle pour elles, de prendre en charge véritablement cette question, parce que c'était se rabattre sur leur rôle, le rôle auquel elles essayaient d'échapper, qui était leur rôle de mère, de responsable de famille, etc. Donc voilà, on voulait pas rentrer en matière. Et pourtant, il y avait là un levier fabuleux. La dénonciation de l'inceste pouvait constituer un levier fabuleux de dénonciation du patriarcat. Bon. Mais elles l'ont pas utilisé au début, et justement parce que il y avait comme une incapacité là à construire une figure de victime. Elles voulaient pas, hein, il me semble-t-il, s'en tenir à cette question de la figure de la victime. Sur Freud, j'avais encore autre chose à dire, mais je sais plus, j'ai oublié, peu importe.
Merci à toutes deux pour vos exposés. Voilà, je vais surtout poser des questions à Anne-Claude Ambroise Rendu, parce que sur le compte, j'ai tout découvert. Donc, oui, Tardieu, ça me semble important, parce qu'il y a Tardieu dans, introduit à l'idée qu'il faudrait être un peu plus attentif à la parole des enfants. Et il y a quelqu'un qui va venir bloquer ça. C'est Dupré. Dupré qui va dire les enfants sont des mythomanes.
Mais Toineau avant lui, avec la théorie des faux attentats, Toineau commence et Dupré donne une consistance scientifique au truc. Oui, ce sont des mythomanes. Les femmes aussi, d'ailleurs. Donc,
Les femmes aussi, bien sûr, chez Dupré. Quand on n'est pas pervers constitutionnel polymorphe, on est mythomane. donc, ce n'est pas beaucoup de choix. Oui, alors, sur la figure il y a quand même un endroit où l'incestueux être primitif est extrêmement présent, c'est toutes les grandes enquêtes sur la condition ouvrière, sans être nommée.
Oui.
Mais par exemple, Villermé, la plus connue, je vous laisse deviner ce qui se passe, ces couches infâmes où toutes les générations cohabitent. Bon, je veux dire, pas compliqué ce qu'il faut deviner. Et dans toutes ces grandes enquêtes, c'est présent.
Oui, l'idée que la promiscuité est un danger pour l'hygiène familiale.
Voilà, cette idée est tout à fait... voilà. Et sur... le paysan incestueux, c'est en filigrane dans la terre de Zola. Alors, carrément énoncé dans La jument verte de Marcel Aimé, où je ne sais plus quel personnage dépucelle toutes les filles les unes derrière les autres. Donc là,
il y a quelques autres romans, d'ailleurs, époque.
Et puis, alors, c'était... et puis, sur l'inceste féminin, il y a quand même le moment Souffle au cœur.
Dont je n'ai pas eu le temps de parler. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le Souffle au cœur ou la Luna... donc c'est les années 70. Au moment où alors il y a eu toute une polémique parce que Michel Pollack a fait une émission sur l'inceste et qu'il a été sanctionné pour ça, parce qu'on a jugé que, y compris le médecin qu'il avait invité sur son plateau, avait parlé de tout ceci en termes bien légers et parce qu'en fait il n'avait pas condamné l'inceste. Et moi, j'ai regardé assez systématiquement la presse sur cette question. En fait, la Luna, ça ne choque pas vraiment. Je me suis demandé pourquoi. Parce que d'abord, il y a une appréciation complètement différente de l'inceste mère-fils. Je me suis demandé si ça tenait aussi à la beauté des protagonistes qui, au fond, vivent une histoire d'amour et que donc, parce qu'on est dans les années 70 et qu'il y a... on est dans un régime d'appréciation qui porte en lui, je ne sais plus comment le dire après ce que j'ai dit tout à l'heure sur le... qui porte en lui les effets de mai 68. Bref, cet inceste mère-fils... Il n'est pas considéré comme un inceste dommageable, répréhensible. Voilà. Il ne suscite pas l'opprobre, me semble-t-il. Et c'est vraiment beaucoup plus tard que on redécouvre, comme souvent, la Lune, et qu'on dit « Ah oui, il y a des mères incestueuses, et ça pose un problème ». Sur Freud, je voulais juste dire, oui, alors peut-être Freud a bloqué quelque chose, moi je veux bien le croire, mais il me semble qu'il a aussi ouvert quand même quelque chose qui est fondamental et qui a permis qu'émerge cette parole, c'est qu'il a donné la parole. La cure psychanalytique est un lieu de parole, et que Dolto après lui, quand même, et même Lacan, Dolto surtout, a institué quand même l'idée qu'on pouvait écouter la parole de l'enfant. C'est l'affaire de Toineau et de Dupré qui m'est fait penser, hein, qu'on pouvait écouter la parole de l'enfant et que même il fallait l'écouter et qu'il avait peut-être des choses à dire qui n'étaient pas complètement intéressantes pour établir la vérité des faits et pour comprendre par ailleurs le fantasme. Voilà.
Alors, je vais plutôt poser une question ou deux sur les contes. Alors, j'en ai plusieurs sur l'inceste, mais je les garde pour plus tard. Non. Sur les contes, j'avais en fait deux questions. Alors, la première, c'est sur les personnages. Il y a eu un dictionnaire de la méchanceté qui a été publié il y a quelques années. Donc, première question, alors, qui sont les vrais méchants, finalement, dans les quatre contes? Et puis, la deuxième question, c'est par rapport aux adultes, parce que dans la conclusion, vous avez bien dit, bon, voilà, l'aide, l'entraide entre adolescents. Mais du coup, là, les adultes ne sont pas apparus dans la conclusion. Alors, quid des adultes, à ce moment-là, dans les quatre contes?
D'accord. Là, spécifiquement, dans ces quatre spectacles, un vrai méchant, c'est Barbara la sorcière, qui on ne connaît pas exactement, enfin, il n'y a pas de motivation psychologique, il y a une motivation, du moins de mon point de vue, mais elle veut manger du vioc. Il y a une chanson qui est un vrai leitmotiv qui devient un peu culte pour les enfants après. Voilà, elle a ourdi ce projet en amont de séduire Jacob parce que elle, son truc, c'est de manger du vieux. Et il n'y a pas de rachat. Elle meurt vraiment dans les flammes du four, elle fait peur aux enfants, et il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que, voilà, elle a des intentions mauvaises, elle va essayer d'aller jusqu'au bout de son projet, et elle est condamnée. Après, alors c'est un peu le seul exemple que j'ai de vrais méchants dans ce corpus-là, du moins de quatre contes. Le miroir, lui aussi, finalement, est vraiment méchant. Au début, il est trouble, on ne comprend pas trop, on se dit, oh, il est quand même narcissique, il y a ce rituel très connu, bon, cristallisé dans nos imaginaires par les studios Disney, évidemment, du miroir, et finalement, il y a vraiment des scènes où la jeune blanche, donc il y a un effet de réalisme qui est très fort, vu que c'est un film qui est projeté en arrière-fond, où on entend vraiment, elle n'est même pas dans la salle de bain, et il l'appelle, Blanche, ta belle-mère veut te tuer, fuyez, et c'est vraiment lui l'instigateur. Donc certes, c'est un objet inanimé, et ça fait partie de ses procédés de mise à distance, mais pareil, son cas n'est pas résolu à la fin de l'intrigue, comme c'est souvent, c'est un code un peu dans les productions jeunes publics, beaucoup plus dans l'album peut-être qu'au théâtre, où on essaye de résoudre le cas un peu de tout le monde. On ne veut pas finir l'intrigue sans savoir ce qu'il est advenu de tout le monde. Là, le miroir, il n'y a pas de rachat non plus. Et d'ailleurs, je viens d'avoir un flash, il n'y a pas du tout de rachat, il est condamné parce qu'elle le brise. Elle le brise. C'est l'une des dernières images du spectacle. À deux, elles prennent un marteau et elles brisent le miroir. Un personnage que j'ai brièvement tracé parce que voilà, fallait que j'aille vite un peu. La fée, elle est extraordinaire chez Pomera. Elle pourrait faire une communication à elle toute seule. Elle a un rapport à l'existence qui est très intéressant parce que c'est un personnage éternel. Et donc, le spectacle a été créé en Belgique, alors je ne sais plus, 874 ans, quelque chose comme ça. Et elle dit que la vie devient ennuyeuse pour elle, qu'elle en a vraiment ras-le-bol, qu'elle a eu des fournées de gosses, que les 100 premières années, c'était marrant, mais alors maintenant. Et elle lui dit, mais toi, tu as cette chance merveilleuse, tu es au seuil de toute chose, tu n'as encore rien vécu. Et elle exalte le vivre. Et c'est un thème qui transcende ça vraiment, le théâtre jeunesse, et qui se retrouve vraiment énormément dans les réécritures scéniques de contes, de donner le goût de vivre et de refuser toute forme de pessimisme, qui serait d'ailleurs sans doute un motif de censure. Parce qu'il y a eu le cas célèbre, mais là c'est pas un exemple théâtral, d'un album jeunesse qui a suscité l'effroi, je sais plus dans quelle période c'était, peut-être les années 80, d'un petit âne suicidaire, et qui va rencontrer au fur et à mesure des compagnons en lui disant « Est-ce que tu veux pas m'aider, s'il te plaît, j'aimerais vraiment en finir ?» Tout le monde lui dit « Non, non, non », jusqu'à ce qu'il rencontre un petit ourson qui dit « Bon, moi, je vais t'aider », et puis il finit pendu. Voilà. Et ça, ça a été accueilli d'une manière effroyable. Voilà. J'ai pas d'exemple comme ça au théâtre, je pense que ce serait très compliqué. Voilà.
Je voulais revenir sur la question de l'inceste et finalement des représentations que nous pouvons avoir d'un père incestueux. Enfin, je prends le père, on pourrait parler du frère, mais c'est encore d'autres enjeux. On a fait une étude sur la construction de l'intime conviction chez les magistrats à partir d'un dossier judiciaire, parole contre parole, donc une fille disant être victime d'inceste et faisant les révélations 12 ans après. Et donc, dans ce qu'on a recueilli des magistrats, il est étonnant de voir apparaître les différents temps, finalement, les différents archétypes ou prototypes que vous avez énoncés, Anne-Claude, c'est-à-dire l'homme frustre, et parfois dans le même discours du magistrat. On lui demande de raconter comment il se représente l'accusé et la victime. L'homme frustre, mais ça peut être aussi le pervers. C'est mêlé d'explications psychologiques, c'est-à-dire du type, je pense à la pulsion, à la pulsion psychiatrique, là, du type, quand ils commencent de toute façon, ils ne peuvent pas ne pas aller jusqu'au bout. Autrement dit, c'est infiltré à la fois de discours médical, de discours moraliste, moral, de savoir psychologique plus ou moins bien digéré, et par ailleurs, la victime. Alors la victime, elle est lue quasiment tout le temps sous l'angle de la psychologie et quasiment que de la psychologie, au point qu'on peut en oublier même son histoire familiale, ce qui est quand même un peu étonnant. Hein. Et elle est donc là, puisqu'on a parlé au préalable un peu de la question de la place de la victime, l'apparition de l'époque de la place de la victime, elle est d'emblée crédible, hein, parce que victime. Elle dit qu'elle est victime, elle est plaignante, donc elle est crédible. Voilà. Et chez la plupart des magistrats, on a fait en deux temps, donc on a rencontré une trentaine de magistrats. Et chez la plupart des magistrats, ça apparaît. Donc, il y a quelque chose... Je me demande comment on peut sortir de là. Voilà. Parce qu'au bout du compte, chacun est renvoyé à des modèles et à des constructions, alors qu'ils tirent de l'expérience, souvent, ils disent « Oui, mais dans ces cas-là, c'est comme ci, c'est comme ça. » Et du coup, c'est verrouillé. C'est verrouillé et on oublie quelle est la dynamique des relations. Voilà. Et j'en voudrais en venir à une question qui est, je crois, une question de fond, puisqu'on est là pour parler de la violence en famille, c'est est-ce qu'il est pensable pour nous qu'un père puisse désirer sa fille sans être pédophile ? D'abord, la plupart des pères incestueux ne sont pas des pédophiles, et sans être malade mental. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas dans des familles, dans des dynamiques familiales, des éléments qui peuvent autres, qui peuvent autoriser des passages à l'acte? Et comment pouvons-nous, sans diaboliser, comme on a pu le faire, ou sans psychiatriser, ce qui revient au même, comment pouvons-nous penser qu'un père puisse abuser de son enfant? Voilà. Je veux dire, sans être obligé de rigidifier notre appréhension de ce phénomène. Voilà. Comment penser que s'il y a un interdit, c'est bien parce qu'il y a une possibilité de l'acte, et je crois que notre société n'est pas encore à ce stade où elle peut assumer que tout homme, toute femme peut faire mal à son enfant, sexuellement, physiquement, et que c'est peut-être là notre problème actuel. Voilà.
Il me semble qu'au sein des représentants des sciences du psychisme, c'est comme ça, c'est ce que vous dites, hein. Je pense à Roland Coutenceau, par exemple. J'y pense parce que c'est, entre autres choses, une vraie star médiatique. Donc, le représentant de ces sciences-là qui est le plus connu. Il y a vraiment une souplesse, un nuancier absolument quasi infini. Et puis surtout, un refus total. Les gens qui travaillent auprès des auteurs de violences sexuelles ne sont jamais, enfin ceux que j'ai rencontrés, j'ai pas vu tout le monde, mais ils sont jamais installés dans la réprobation, le moralisme, la hauteur de vue, etc. Ils sont au contraire dans une optique très, très, très compréhensive, sans quoi il n'y a pas de thérapie possible ou de thérapeutique même.
Bon, il y avait aussi dans la première.
Je parlais des magistrats.
Oui,
alors je parlais de ceux qui vont juger l'acte.
Évidemment, évidemment, c'est compliqué.
Et ça traduit, je pense, ce qui circule effectivement dans notre culture.
Et peut-être aussi une histoire qui est celle d'une espèce de concurrence avec laquelle on n'a pas fini entre précisément le savoir des représentants de la justice qui ont affronté le savoir médical. Ça fait 200 ans tout ça est en concurrence et que ça pose des problèmes, que la suture entre le diagnostic médical et la sentence judiciaire est un problème pour tout le monde. Et par ailleurs, quand on réfléchit, quand on prend des décisions, c'est toujours en fonction de modèles intellectuels, de modèles construits. C'est très difficile de s'arracher à ça.
Et qu'ils évoluent relativement peu.
Et oui, alors dire oui, voilà, ça c'est
sur ça que je voulais mettre l'accent.
De voir à quel point il y a une inertie une inertie considérable. Ouais.
Merci.
Merci. C'était une question pour Janice Pépin pour savoir si tu pouvais revenir plus précisément sur la manière dont dans Podane on représente, on met en scène la volonté incestueuse du père. Enfin, tu as déjà un petit peu décrit que c'est un personnage un petit peu grotesque, mais plus précisément sa volonté incestueuse, comment elle est manifestée au public enfantin. Et parce que dans mon souvenir, dans Podane de Jacques Demy, on présente d'abord un portrait de la fille au père comme la plus belle du royaume, et c'est presque par inadvertance finalement qu'il se rend compte que c'est sa fille. Et la volonté incestueuse, elle est manifestée par la volonté du mariage, mais c'est très euphémisé, quoi. Voilà. Et donc là, quel est le parti pris dans la mise en scène?
Alors, je vais répondre évidemment à la question. Rabeu, il s'est demandé s'il allait faire ce spectacle. Il a d'abord fait un Barbe Bleue. Et puis il s'est dit, Podane, ça me fait peur parce que dans la salle, il y aura peut-être des enfants qui ont été victimes d'inceste. Les chiffres parlant d'eux-mêmes, il s'est dit un serial killer, comme je l'ai présenté dans Barbe Bleue, ça, il n'y avait pas peu de chance. Mais par contre, l'inceste, plus délicat. Et finalement, face au succès de Barbe Bleue auprès des enfants, il s'est dit, bon, je vais quand même m'atteler à ça. Alors, hormis donc, cette petite description que j'ai faite du désir sexuel, c'est un peu le seul endroit où la sexualité est convoquée, parce que le loup de Tex Avery, c'est vraiment l'appétit sexuel débordant. Pour les enfants, c'est peut-être moins clair. Je ne suis même pas sûre qu'ils reconnaissent que c'est le loup de Tex Avery. Il y a toujours ces jeux de strates dans les réécritures de contes. Je m'adresse aux adultes par-dessus l'épaule des enfants. Le mariage est évoqué. Alors ça peut paraître douteux, c'est toujours l'interprétation littéraire. Il y a une formule à un moment, ma fille, je vais préparer votre anneau, je vais préparer mon anneau pour votre doigt, préparer votre anneau pour mon doigt. Il y a des choses, des formes un peu de chiasme comme ça qui peuvent être relevées par les adultes. Et après, il y a en effet ce motif qui est présent de l'erreur de casting. Il y a une scène qui est très drôle, où on va présenter différentes photos avec des grimaces, en fait. Donc les enfants sont hilares, et à chaque fois ils disent « Non, celle-ci, elle est trop moche, une tête de cochon, ma femme a bien dit que je devais prendre plus belle qu'elle. » Et là, d'un seul coup, il y a comme une diapositive qui apparaît, et c'est sa fille. Il dit « Celle-ci, c'est celle-ci que je veux », et c'est là que s'ouvre le thème de l'inceste. Mais... Donc il y a cet effet de dilution par le comique, le fait qu'il y a le mariage qui est évoqué, mais l'appétit sexuel, c'est vraiment que dans ce moment-là avec le flamenco. Ensuite, c'est dilué. Il veut poursuivre tout le temps sa jeune fille, sa fille, et il la poursuit jusque dans l'endroit où elle vit comme Cendrillon, parce que le conte de Podane est rapproché du cycle de Cendrillon, où en fait, voilà, il y a une déchéance sociale énorme, elle travaille dans les écuries, et il la poursuit avec son hélicoptère, son jet privé, il y a tout un jeu d'actualisation, alors que les adultes n'aiment pas trop souvent quand j'en parle avec eux, mais les enfants adorent, il évoque des Ferrari, tout ça, et c'est vraiment sur le modèle du comique. Par contre, la jeune fille oppose un non catégorique. Elle ne veut pas se marier avec son père, sauf quand il y a la robe couleur soleil qui apparaît, qui est une robe magnifique, où en effet, dans la salle, il y a des « Ah, c'est une robe électrique !» en fait, avec du lumistyle. Les enfants sont conquis. Et il fait un clin d'œil à la moralité de Perrault, qui est toujours très misogyne, et c'est un peu une catastrophe envers les femmes, Perrault, où il dit, on voit bien que des femmes qui, appâtées par des belles toilettes, seraient prêtes à faire des choses qui contreviennent aussi à la morale. Et du coup, il utilise ce clin d'œil-là, où à un moment, il y a l'ambiguïté, est-ce que la fille, elle ne va pas accepter finalement d'épouser son père ? Et la fée intervient, sa fée marraine, en disant, non, 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 c'est vraiment impossible. Et là, le non est de nouveau renforcé. Voilà, je ne sais pas si je réponds, mais c'est assez, c'est pas frontal et c'est, ce serait quasiment impossible que ce soit frontal. Les auteurs s'auto-censurent eux-mêmes et puis ensuite les relations publiques, comme on appelle dans les théâtres, reçoivent très souvent des courriers des parents. C'est quelque chose qui est un peu tue, mais qui existe. Et la censure, elle vient souvent des parents aussi après. Voilà, je ne sais pas si j'ai.
Moi, il y a quelque chose qui m'avait frappé dans le pot d'âne de Jacques Demy. Déjà quand j'étais enfant, je pense, c'est que et là qui apparemment a été repris par, c'est que le père qui voit un portrait de sa fille ne la reconnaît pas. C'est quand même, ça en dit long sur espèce d'aveuglement du père qui ne connaît pas sa fille. Alors on peut se dire oui, c'est une époque, ce sont des conditions. Effectivement, il est roi, donc il a autre chose à faire que de s'occuper de ses enfants. Mais en même temps, c'est une espèce de totem qui. D'une situation qui a été longtemps tellement, tellement prégnante. Ça dit peut-être davantage d'ailleurs là-dessus que sur l'inceste, à moins que les deux soient intimement liés, mais dans ce cas-là, il faudrait voir comment.
Alors on peut peut-être aussi faire l'hypothèse qu'il ne la reconnaît pas parce qu'elle est devenue une femme et que... Peut-être, mais que lui apparaît là, je dirais, une autre facette de sa fille, comme cette autre facette, ce qu'il renvoie probablement aussi à sa fille elle-même. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là de la femme et de l'enfant qui se trouve séparés d'une certaine façon.
On peut peut-être dire aussi qu'en fait, quand l'inceste peut se réaliser, c'est que le père ne reconnaît pas sa fille en tant que fille. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui est totalement scotomisé et qui peut permettre l'acte, je crois que s'il n'y a pas ça, il n'y a pas l'acte. Voilà. C'est ce fait de ne pas reconnaître, donc dans les deux sens du terme.
Pour embrouiller encore un peu les choses, quand même, dans le conte écrit de Perrault, ça commence quand même aussi avec ce que je dirais une certaine forme de perversion du côté de la mère qui, au moment de mourir, lui dit bon, après la période de deuil, tu pourras te remarier. Et elle ajoute à la condition que tu trouves une femme plus belle que moi. Et il dit à peu près aussi, étant sûr de ses atouts, de ses acquis, elle était sûre qu'il ne se remarierait pas. Donc il y a quand même quelque chose aussi dans ce contrat-là qui montre que la problématique n'est pas que entre cet homme et l'enfant.
Alors merci à tous. Nous reprenons à 13h45, c'est ça ? Si je lis le programme. Frédéric ? 50. Bon, moi je vous dis 45, comme ça on reprend à 50.
Et la salle est fermée à clé pendant la pause, donc vous pouvez laisser vos affaires si vous le souhaitez.